Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour, en ce dernier jour du mois de janvier sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Eh bien, nous allons partir en Afrique. Et oui, il fait bien trop froid chez nous. Nous avons envie de voir comment vivent les femmes en Afrique, puisqu'aujourd'hui, comme pour la deuxième fois, un deuxième rendez-vous mensuel, nous retrouvons des femmes d'Helvetas, de l'association Helvetas. Aujourd'hui, nous retrouvons Anna Regazzoni, qui était déjà là il y a un mois en arrière, et nouvelle venue avec nous, Barbara Hahn. Et nous allons parler ce soir du Mali et du Mozambique et de la part que les femmes prennent dans le développement de ces deux pays. Mais pour commencer, d'abord, quelques petites musiques. C'était Marianne Faithfull et juste avant d'écouter Yannis Yann, la prochaine chanson, eh bien, j'avais envie de vous rappeler que Radio Zone, Remue Ménage et plein d'autres émissions dépendent aussi de votre encouragement puisque Radio Zone est une radio associative sans publicité et sans beaucoup de sous pour se faire vivre. Alors vous pouvez toujours la soutenir et l'aider à vivre en achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur, bien évidemment. Inflation oblige, cette année, la carte d'auditrice est à 30 francs ou 100 francs français. Et vous pouvez l'obtenir en nous téléphonant maintenant, tout de suite en direct pendant l'émission, au 50 40 51 41. Je répète, 50 40 51 41. 023 si vous appelez depuis Genève et 0033 si vous appelez depuis Lausanne et environ. Alors n'hésitez pas, nous avons besoin de votre soutien pour améliorer notre technique, pour encourager les gens à produire d'autres émissions. Et puis si vous connaissez un chef d'entreprise, une association qui a beaucoup trop de sous, qui ne sait pas quoi en faire, eh bien n'hésitez pas, suggérez-leur d'être aussi le mécène de Radio Zone. Ça existe des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas quoi en faire, on peut toujours leur suggérer. Alors n'hésitez pas, et y compris tout à l'heure, notre numéro de téléphone, c'est aussi pour que vous interveniez pendant notre émission. Nous allons parler d'ici quelques minutes du Mozambique et du Mali et du rôle des femmes dans ces pays-là. Nous avons en direct nos invités, alors n'hésitez pas à leur téléphoner pour leur poser toutes les questions qui vous intéressent au 50 40 51 41 023 depuis Genève 0033 pour la Suisse romande.
Came from Dakota, though some say she hailed from the south. He tried to believe, but each time she would leave with the venom that dripped from her mouth. Like some angel of old, bent on saving the soul, drugged to the knees, he would pray to some rude Russian icon, the twine like a python. And blinded the sun night and day, and he'd say, please, bring me peace. You say you'll stay, just leave me all of my soul, your passion play. To confuse passion with vision and pain. He lies for possession and time, but there's no time to gain. Squandering, feeling, constantly stealing away from the sound of her name. It's like thunder and lightning hiding the sound of the rain. And she trusting in time to remind her of blind she came. Suddenly rootless, fashionably useless, magically fruitless and tame. Like some Sunday scholar who lives off the squalor of yesterday's knowledge and fame. And he'd say,
some rich man's excuse for the moon. I must have been lucky, got out with my body intact, and tomorrow in tune. Now it's the sense of time that wraps like a vine round the neck of the sun and the moon.
Alors nous voilà partis pour le Mali et pour le Mozambique. Ce que vous entendez, c'est effectivement un tam-tam djembé du Mali. Nous avons en direct avec nous Anna Regazzoni. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Et Barbara Hahn. Bienvenue Barbara, parce que vous n'êtes encore jamais venue chez nous. J'espère que ça ne va pas trop être horrible.
Merci et bonne soirée.
Alors nous allons évoquer aujourd'hui quelle est la situation des femmes au Mali et au Mozambique et quelles sont les actions que Helvetas peut soutenir dans ces deux pays-là, et parler en particulier, évidemment, de quelle est la place des femmes dans la vie quotidienne de ces pays et quelle est leur part dans le développement de ces pays. Parce qu'on avait pris comme objectif, en du moins certaines organisations comme Helvetas, avaient pris comme objectif l'an passé de mettre en évidence le rôle important que jouaient les femmes dans le développement aujourd'hui de certains pays du tiers-monde. Alors, d'abord, comme première question, est-ce qu'on peut dire que quand on dit Mozambique, Mali, je ne sais pas, que tous les autres, on pourrait citer tous les autres pays africains, est-ce que c'est l'Afrique une seule et même réalité ou est-ce qu'on est obligé de tenir compte qu'il y a des diversités incroyables d'un pays à un autre ?
Il y a des diversités d'une région à une autre, du fait déjà du climat. Donc, si vous êtes en Afrique du Nord, évidemment, vous avez un climat qui est correspondant à peu près au sud de l'Europe, vers la Méditerranée. Vous descendez, vous arrivez dans le désert, donc ça conditionne aussi les modes de vie. Ensuite, en allant toujours plus bas, vous allez arriver vers l'Afrique équatoriale, où il y a les grandes forêts, un climat très humide. Donc là, de nouveau, vous avez des ethnies, des modes de vivre tout à fait différents pour arriver jusqu'à l'Afrique du Sud, l'Afrique équatoriale, l'Afrique australe, où il peut même faire très froid. Donc vous avez des réalités vraiment très différentes, aussi bien du point de vue géographique qu'ethnique.
Au niveau des modes de vie, ces différences géographiques et ethniques changent beaucoup les choses aussi. Hein. Quelqu'un qui habitera, je ne sais pas, la Guinée-Bissau, quelqu'un qui habitera le Mozambique ou le Kenya, quelqu'un qui habitera l'Afrique du Sud, aura aussi un mode de vie très différent.
Cela est conditionné aussi par le fait de l'histoire. Donc, il y a eu évidemment différentes colonisations qui ont laissé leur empreinte particulière. Les pays francophones ont une évolution différente des pays anglophones. Ce sont aussi des éléments dont il faut tenir compte. En plus, il y a des pays qui sont mieux dotés du point de vue économique, qui ont eu un développement plus rapide que d'autres. Ça aussi, c'est un élément de diversité.
Et qui sont bien sûr plus ou moins riches suivant justement la situation climatique dans laquelle ils se trouvent. Un pays désertique, j'imagine, aura plus de peine à accorder un niveau de vie à ses habitants.
Ça, par exemple, à cela, il peut s'ajouter le fait que le pays n'a pas d'accès à la mer, comme c'est le cas du Mali. Ce qui fait que tous les transports sont nettement plus compliqués, aussi bien pour les importations que pour les exportations.
Toutes les deux, Anna et Barbara, vous êtes allées en Afrique, pour ce qui est de Barbara très récemment, puisqu'elle revient, vous revenez du Mozambique et vous y étiez au mois de novembre, je crois.
Oui, c'était au mois de novembre, octobre et novembre, pendant 6 semaines.
Et vous, Anna, vous connaissez aussi l'Afrique déjà ?
Oui, j'ai fait déjà plusieurs voyages. Ma première expérience africaine, je l'ai faite quand j'avais 20 ans au Gabon. Et ça a été quelque chose que je crois m'a marqué d'une façon assez forte.
Et depuis, vous avez voyagé dans beaucoup d'autres pays avant d'arriver au Mali dont vous allez nous parler aujourd'hui.
Oui, j'ai surtout voyagé en Afrique francophone. Et donc, la dernière expérience, effectivement, c'était le Mali en 88.
Il y a pourtant, peut-être parmi toutes les diversités que vous venez de nous décrire, en tout cas un point commun dans pas mal de pays, peut-être pas tous, effectivement, ceux qui vivent dans cette zone très humide, c'est sûrement pas leur problème, mais pour beaucoup d'autres, il y a le problème de l'eau en Afrique, qui est quand même un problème crucial de manque et surtout de mauvaise qualité, parce que l'eau n'est pas toujours potable et bien sûr entraîne plein de problèmes. Est-ce qu'on peut dire que les habitants du Mali, comme ceux du Mozambique, puisque pour parler de ceux dont nous allons parler, évoquer aujourd'hui, se heurtent aux mêmes difficultés en parlant de l'eau?
Oui, on peut dire que c'est un trait d'union, parce que bien que les deux pays aient deux climats différents, donc deux réalités géographiques différentes, le problème de l'eau reste surtout donc en milieu rural, quelque chose qui occupe les femmes vraiment pendant toute l'année, soit parce qu'il n'y a pas assez d'eau, donc pendant la saison sèche, les puits tarissent, ou bien parce que même si l'eau est assez abondante, elle peut être polluée par différentes bactéries. Donc, ou bien soit il y en a ou il n'y en a pas, ça constitue toujours un problème.
Barbara, au Mozambique, c'est aussi les femmes qui sont responsables essentiellement de la tâche de l'eau?
Oui. Pour aller chercher de l'eau, c'est en premier plan, c'est les femmes et les enfants qui sont responsables. Mais ça arrive aussi que les hommes vont chercher de l'eau, mais c'est plutôt rare. Mais ça arrive.
Donc en fait, c'est aussi un deuxième point commun de ces deux pays, c'est que c'est les femmes qui sont principalement, même si effectivement parfois les hommes participent aussi à cette tâche, mais c'est essentiellement les femmes qui sont responsables d'aller chercher l'eau et donc pèsent sur elles le lourd poids non seulement de la tâche, parce qu'il faut aller loin souvent, mais y compris de la responsabilité de donner l'eau à tout le monde, une eau qui n'est pas forcément bonne ou qui au contraire est devenue bonne grâce au forage de nouveaux puits, j'allais dire au creusement de nouveaux puits. Alors commençons peut-être par ce qui se passe au Mali, puisque donc c'est vous qui êtes entre guillemets la spécialiste du Mali. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là, ou du moins pour aller savoir plus particulièrement ce qui se passait au Mali, qu'on vous a envoyé, qu'Helvetas vous a envoyé en 1988, histoire d'aller découvrir et comprendre quelle était la situation des femmes au Mali. Alors qu'est-ce que vous avez découvert? Comment vivent les femmes au Mali, pour faire peut-être un tableau un peu général de leur situation?
J'ai été frappé par la simplicité du mode de vie parce que principalement donc j'ai été dans des villages. Ça veut dire que vous êtes reporté en arrière de je ne sais combien d'années par rapport à notre mode de vie. Donc inutile de dire qu'il n'y a absolument aucun appareil ménager pour faire les travaux domestiques. Il n'y a pratiquement pas de produits qui soient déjà prêts pour la consommation. Donc, toutes sortes de travaux qui, pour nous, sont vraiment dépassés et que ces femmes doivent assumer tous les jours, en plus des autres travaux qu'elles font aussi dans les champs.
Par exemple,
pour préparer un repas, vous avez la matière première brute. Donc, vous devez piler le riz ou le maïs ou le mil. Donc, c'est un travail qui se fait toujours à la main. Donc, vous ne disposez pas de farine. Ça n'existe pas d'aller à la boutique acheter un kilo de farine déjà prête qu'on n'a qu'à mettre dans une marmite.
Parce que boutique, il n'y a pas non plus dans le village.
Très souvent, il n'y a pas non plus de boutique dans le village. Tout est construit et tout est produit dans le village, sauf quelques rares produits comme le pétrole, par exemple, pour les lampes, ou bien le thé ou le sel qui s'achètent sur les marchés.
Parmi les, justement, la structure du village, comme ça, vous disiez, il n'y a pas de boutique, mais il manque aussi beaucoup de choses. Pour qu'on s'imagine ce fameux retour en arrière par rapport à notre situation, qu'est-ce qui a fait aussi la différence avec nos villages à nous?
Bon, si je reprends l'exemple des villages dans lesquels j'ai passé, il s'agissait à peu près toujours de villages qui comptaient entre 300 et 500 habitants. Et il manquait pratiquement... Il n'y avait absolument aucune infrastructure qui serait normale dans nos pays. Par exemple, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de bureau de poste, il n'y avait pas de dispensaire ni de pharmacie. Ce qui fait que les gens sont laissés totalement à eux-mêmes. Ils doivent se débrouiller en tout et pour tout. Si quelqu'un est malade, il faudra aller chercher le médecin à 30 km.
Donc, il n'y a pas d'électricité aussi,
il n'y a pas d'électricité. Non, bien sûr que non. Donc le soir, vous pouvez voir quelques petites lumières qui se promènent comme ça dans la nuit. Ce sont donc des gens qui ont des lampes tempête à pétrole. Maintenant, il y a de plus en plus de lampes de poche, mais en fait, il n'y a pas d'éclairage comme nous l'avons dans nos villes ou villages.
Mais est-ce que ces gens sont conscients qu'ils vivent dans un isolement qui est très grand? Parce que je peux aussi imaginer qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de transports publics qui relient ces villages entre eux.
Non, surtout au Mali. Dans d'autres pays, c'est plus développé. Mais en tout cas, au Mali, dans la partie que j'ai visitée, il n'y en avait pas beaucoup. Bah, les gens disposent de quelques bicyclettes, de mobilettes, mais c'est tout. Et en fait, même s'ils se rendent compte qu'ailleurs, ça peut être mieux, ils ne s'en plaignent pas.
L'État n'intervient en rien du tout dans ces villages?
L'État intervient surtout pour prélever l'impôt.
Ah. Bien sûr. Et dans tout ça, alors, dans cette structure villageoise, très peu équipée, avec peu de structures pour aider les gens, bon, vous l'avez dit, la femme doit entre autres produire tout ce qui n'est pas tout cuit dans un magasin. Elle doit faire beaucoup de choses elle-même. Alors, peut-être, voyons comment ça se passe. Elle est au cœur de sa famille. La famille est une chose importante dans le village, Asma?
Oui, en général, en Afrique noire, la famille est très importante et c'est ce qu'on appelle une famille étendue. Donc, il n'y a pas un noyau restreint comme dans la famille européenne. Il y a donc les parents, les enfants, des oncles et des tantes, des grands-parents, des cousins. La structure familiale africaine n'est pas simple à comprendre pour nous, Européens, à moins d'avoir vraiment fait des études spécialisées sur des ethnies particulières. Mais donc, c'est un ensemble qui peut comprendre une vingtaine de personnes facilement, qui vivent donc dans la zone sahélienne, dans ce qu'on appelle des concessions. Donc, ce sont des ensembles de maisons avec une cour intérieure et puis différentes cases où les gens habitent. Et les femmes s'organisent entre elles. Donc, il y a une espèce de hiérarchie. Donc, il y a les femmes les plus âgées qui restent à la maison, qui souvent gardent les enfants. Les femmes, en âge de travailler, vont facilement travailler au champ. Il y en a une qui est de corvée pour la cuisine, par exemple, qui fera la cuisine pour toute la famille. Ce qui fait que la femme qui va travailler au champ est libérée de ce travail. Donc il y a toute une organisation qui se met en place depuis des générations, pratiquement.
Est-ce qu'il y a une forte division des tâches entre les hommes et les femmes au sein de cette concession ou de la structure familiale?
Oui, et déjà, elle se remarque pour l'exploitation donc agricole. Ce sont les hommes qui exploitent les champs qui rapportent de l'argent en général. Donc ce sont les hommes surtout qui cultivent des céréales, des arachides ou du coton selon les régions donc de production. Les femmes participent aux travaux des champs et souvent elles ont aussi un champ à elles où elles cultivent des tomates ou des légumes. Et ce qu'elles cultivent, elles peuvent le vendre et le revenu de ces ventes, elles peuvent le garder pour elles. Mais souvent, en fait, elles l'utilisent aussi pour contribuer aux frais du ménage parce que les hommes, paraît-il, de moins en moins donnent ce qu'il faut pour l'entretien de la famille.
Mais qui est-ce qui donne à la femme ce champ? C'est une division des terres de la famille ou bien ça lui est donné par le, je sais pas, le village, le chef du village?
Oui, en général, en Afrique, la propriété foncière n'est pas privée. C'est donc un village dispose d'un certain nombre d'hectares de terre et le chef de village les distribue aux familles selon la taille de la famille et les besoins. Et ensuite, c'est effectivement l'homme qui décide que sa femme peut avoir telle parcelle qu'elle cultivera elle-même.
Et là-dessus, elle est totalement décisionnaire, si je puis dire. C'est elle qui décide ce qu'elle en fait, cultive ou pas, et qu'est-ce que, comment elle va utiliser les biens, le produit de cette terre.
Oui, là, c'est elle qui décide, mais des fois, ce sont les circonstances qui décident pour elle, parce qu'elle n'a pas toujours le temps de s'occuper de son petit champ, parce qu'elle est appelée à faire autre chose.
Parce que, bon, vous disiez, parfois, à tour de rôle, elles font la cuisine, elles participent aux tâches agricoles, mais j'imagine qu'il y a encore plein d'autres tâches journalières.
Bien sûr. Déjà, la corvée de l'eau, il faut aller chercher l'eau, parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il y a des puits ou des forages à proximité, donc ce n'est quand même pas la même chose que d'avoir un robinet à la salle de bain ou à la cuisine. Donc, il faut aller chercher de l'eau, aussi bien pour faire la cuisine que pour la toilette. Ensuite, donc, elle prépare les repas. Et pour la préparation des repas, il faut déjà aussi beaucoup plus de temps que pour nous, puisque justement, il y a toutes ces opérations de transformation. Et puis, elles ont aussi de petits bétails qu'elles doivent élever, etc.
Anna Raganzoni, quand vous êtes allée au Mali, vous avez rencontré une femme, Madame Sangaré, avec qui vous avez eu l'occasion de discuter, même si c'était peut-être par l'intermédiaire de traducteurs, parce que tout le monde ne parle pas français malgré tout au Mali, même si c'est officiellement la langue parlée.
Loin de là, du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles, évidemment, tout le monde n'a pas l'occasion d'apprendre le français.
Et en l'occurrence, Madame Sangaré, elle, n'a pas été à l'école et ses enfants non plus. Alors, cette Madame Sangaré, le petit peu que j'en sais, m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus. Ça a l'air d'être une femme qui représente tout ce que vous venez de nous raconter. Une vie incroyable, un travail insensé. Puis pourtant, elle dit, durant la saison sèche, je ne travaille pas beaucoup. Est-ce que vraiment vous avez pensé qu'elle ne travaille pas beaucoup?
En fait, c'était une boutade parce qu'il faut dire que les Africains ont vraiment le sens de l'humour. Ils aiment beaucoup rire et se moquer des gens. Donc, non, simplement quand elle disait que durant la saison sèche, elle ne fait que manger, parce que c'était ça, sa phrase.
Ah, c'est vrai, j'ai oublié cette annexe-là.
Elle voulait dire que, en fait, elle avait un peu plus de temps que d'habitude, parce qu'il n'y a pas de travaux dans les champs, donc les choses se font de façon un peu plus relaxe, pour utiliser une
donc
expression.
Donc de la liste incroyable que vous nous avez faite tout à l'heure, voilà. On soustrait juste le travail dans les champs.
C'est ça, oui.
C'est ce qu'elle appelle avoir que le temps pour manger.
Oui.
En l'occurrence, bon, elle a une vie assez typique, j'imagine, de ce que doit être la vie des femmes au Mali. Par exemple, on sait qu'elle a 6 enfants, mais sur ces 6 enfants, 3 sont morts. Il y a donc une forte mortalité infantile au Mali.
Oui, du fait que la situation sanitaire est assez précaire. D'une part, à cause de l'eau qui n'est pas toujours propre. Ensuite, évidemment, il y a beaucoup de possibilités ou d'occasions de se faire des petites blessures. Si vous n'avez pas été vacciné contre le tétanos, ça aussi, c'est une source donc de danger considérable. En général, l'hygiène laisse assez à désirer. Ça fait que des épidémies de méningite ou n'importe, le paludisme, évidemment, est très fréquent. Donc, ce sont des maladies qui affaiblissent l'organisme. Et si la nourriture n'est pas très riche en éléments, disons, qui peuvent aider l'organisme à se défendre, c'est évident que la mortalité dans ces cas-là est très élevée.
Et puis, Madame Sangaré ou d'autres femmes, elles réagissent comment au fait de perdre comme ça facilement leurs enfants? C'est une chose qui les accable ou c'est un coup du sort? C'est la réalité, hélas, trop quotidienne?
Je dirais que c'est un peu tout ce que vous venez de dire. Parce que les Africains sont très attachés à leurs enfants. Mais en même temps, ça fait partie de l'ordre des choses qu'un enfant meurt en bas âge. Et en fait, c'est pour ça aussi que les familles sont très nombreuses, parce qu'ils espèrent que sur le nombre, il en restera quand même toujours assez pour s'occuper des parents une fois qu'ils seront vieux.
Vous le disiez tout à l'heure, la famille est très étendue, ce n'est pas du tout papa, maman, bébé comme chez nous. Et une des raisons, entre autres, c'est que nous sommes dans un pays musulman et les hommes ont droit à avoir plusieurs femmes. Et Madame Sangaré n'échappe pas à la tradition.
En fait, elle est un peu dans un cas particulier parce qu'étant malade, donc elle a été atteinte de la lèpre et ses mains sont mutilées. Pour elle, c'était encore plus difficile de travailler que pour une femme qui n'avait pas eu ce handicap. Donc, elle a demandé à son mari qu'il épouse une deuxième femme pour qu'elle puisse avoir une aide, en fait. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Donc, le mari il peut décider du jour au lendemain qu'une femme seule ne lui suffit pas. Et amener à la maison une deuxième femme sans trop demander à la première si elle est d'accord, quels sont ses sentiments, etc.
Et qu'est-ce qui se passe? Elles s'entendent bien en général?
Il y en a qui s'entendent bien, mais ce n'est pas forcément une règle. Donc ça peut créer des problèmes par rapport aux enfants. Et j'imagine que l'attitude du mari est déterminante à ce point de vue. S'il ne fait pas de différence entre une femme et l'autre, entre les enfants qu'il a eus de l'une ou de l'autre, évidemment, les choses sont plus faciles.
Mais vous disiez, Madame Sangaré, par exemple, elle a demandé à son mari qu'il épouse une deuxième femme pour faire le travail qu'elle pouvait malheureusement moins faire à cause de sa maladie. Est-ce que même en général, on peut considérer que ça veut dire qu'il y a un meilleur partage des tâches quand elles sont plusieurs femmes, ça diminue leur travail que d'être plusieurs femmes?
Absolument, parce que comme je disais avant, justement, pendant qu'une est dans les champs, l'autre peut s'occuper de la cuisine, par exemple, la lessive, la vaisselle, toutes ces choses qui doivent être faites.
En l'occurrence, Madame Sangaré, elle sait faire plein de choses qu'elle fait quand même, même si elle passe son temps à manger pendant la saison sèche. Elle fait quand même plein d'autres choses pendant le moment où elle ne va pas dans les champs.
Bon, parmi les différentes activités qu'il y a, il y en a une que j'ai oublié de citer, c'est le ramassage du bois pour faire la cuisine. Donc pendant la saison sèche, puisqu'elles ont plus de temps, elles en profitent pour faire des réserves. Mais à part cela, elles s'occupent de tout l'artisanat pratiquement. Donc elles construisent des plateaux pour vanner les céréales. Elles font du savon. Elles doivent le produire elles-mêmes parce que, comme on vient de voir, s'il n'y a pas de boutique, il faut aussi produire cette denrée. Tout ce dont elles ont besoin, en fait, ce sont soit elles ou les hommes, suivant les articles qui sont produits. Par exemple, les femmes qui font partie de la caste des forgerons, elles sont potières en général.
Ah là, il faut que vous nous expliquiez. Comment une femme peut-elle faire partie de la caste des forgerons?
C'est-à-dire que les forgerons se marient seulement entre leurs pères. Alors, c'est un partage des tâches. Donc, les hommes seront forgerons et les femmes potières.
Ça, traditionnellement, de mère en fille et de père en fils.
Exactement, oui.
Et c'est une caste puissante, la caste des forgerons?
C'est une caste qui a en fait un peu un mythe du fait qu'ils travaillent avec le feu. Ils ont un pouvoir particulier. Souvent, ce sont les forgerons aussi qui connaissent la médecine traditionnelle par les herbes.
Donc une femme a intérêt à épouser un forgeron?
Pour autant que son père ait été forgeron. Autrement, voilà. Elle ne peut pas.
Le savon dont vous parliez tout à l'heure, comment fait-on pour fabriquer du savon lorsqu'on habite au Mali? Parce que ça paraît, je sais, avec quoi fait-on du savon?
Il paraît que dans le temps, ça se faisait aussi chez nous. En fait, elle garde les cendres du foyer et desquelles elle extrait la potasse. Donc simplement, elle verse de l'eau par-dessus. Et ce liquide qui est filtré par les cendres contient donc la potasse. Ensuite, elle mélange ça à du beurre de karité. Elle met dans une grande poêle et elles font chauffer cette matière jusqu'à ce qu'elle ait la consistance voulue. Donc, une partie de l'humidité s'évapore, bien entendu. Et ensuite, elles mettent ça dans un mortier et au pilon, elles font une masse homogène. Ensuite, ils confectionnent des petites boules avec ça et voilà, le savon est prêt.
Le beurre de karité, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont inconnues aussi.
Le karité est une matière qu'on extrait d'une amande. Donc, l'arbre de karité est un très bel arbre. Ce sont les femmes qui vont cueillir ce fruit. Surtout donc à la période de l'hivernage, c'est-à-dire à la période des pluies, quand il y a aussi les travaux des champs à faire. Donc elles doivent se consacrer à ce travail de cueillette très tôt le matin. Ensuite, elles stockent ces fruits dans une fosse qui est donc dans la cour de leur concession. Et ce n'est qu'une fois qu'elles auront le temps, donc en saison sèche, de s'occuper de la transformation de ce produit qu'elles pourront effectivement arriver jusqu'au produit fini qui est le beurre.
Alors aussi bien ce beurre que leur savon, que peut-être des tissages ou la poterie, est-ce qu'elles vont le vendre? Est-ce que c'est quelque chose qui leur amène aussi un revenu pour la famille?
Oui, c'est sûr. Elles vont vendre au marché, en général en petite quantité. Et très souvent, elles doivent se rendre au marché à pied. D'une part, ça peut être pour deux raisons. D'une part, parce qu'il n'y a pas de moyen de transport autrement. Mais aussi parce que si elles devaient encore payer en plus les frais donc, pour le transport, ça amoindrirait bien entendu le revenu, qui n'est déjà pas très élevé.
C'est la tâche de la femme d'aller au marché ou c'est un hasard? Ça dépend qui dans la famille. C'est un tournus ou bien c'est sa fonction
non,
d'aller sur le
marché? Non, c'est la femme qui va au marché.
C'est elle qui négocie mieux. En l'occurrence, Madame Sangaré, elle a aussi un champ à elle, comme on disait tout à l'heure. Oui. Elle cultive le riz et son mari cultive plein d'autres choses. Donc, on voit que sa famille est vraiment très traditionnelle. On n'a pas échappé à l'organisation traditionnelle familiale.
Non, en tout cas, dans ce village, le village de Sikoro, qui est donc dans le sud du Mali, vraiment, j'avais l'impression de vivre à une autre époque, du fait qu'il n'y avait pas tout ce dont on a l'habitude dans nos villages. Donc, j'imagine qu'à cause de cela aussi, du fait que c'est assez loin d'une route principale, la structure est restée celle qui était il y a 200 ans.
Alors, on va voir tout à l'heure que peut-être certains progrès comme le forage d'un puits peuvent un petit peu bouleverser le quotidien de ces gens, y compris des femmes, puisque c'était normalement leur responsabilité d'aller chaque jour dans des puits creusés à même le sol, chercher l'eau. Alors, quelle transformation va amener cette nouveauté? Quelle va être leur part de participation? Ça, on va en parler tout de suite après avoir écouté Khalif Saïta, qui est un chanteur moderne, lui, hein, c'est pas la tradition, quoique c'est un petit mélange quand même,
oui,
hein, on peut dire.
Oui, une adaptation.
Alors, quelques moments de musique avec Khalif Saïta. Toujours sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8, et nous vous rappelons que nous évoquons la part des femmes dans le développement au Mali et dans un petit moment au Mozambique.